France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, que sont devenus les engagements pris lors de la COP21? À 3 jours de l'ouverture de la COP22 à Marrakech, on va faire le point sur les accords de Paris qui entrent en vigueur aujourd'hui. On va voir quels sont les pays qui les ont ratifiés, la façon dont ils comptent tenir leurs engagements, comment tout cela va être contrôlé et par qui. Et on s'arrêtera plus précisément sur le cas de la France avec cette question, quel bilan pour le quinquennat qui s'achève en matière environnementale? Pour en parler à nos côtés, Pascal Canfin, ancien ministre vert du développement dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui directeur général du WWF pour la France. Pierre Radan, ancien président de l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, et président de 4D comme dossiers et débats pour le développement durable. Notre grand témoin, l'explorateur Jean-Louis Etienne, est resté à nos côtés, ainsi que Sandy Dauphin, qui s'occupe des questions d'environnement à France Inter. Alors n'hésitez pas à nous appeler pour les interpeller, mais aussi pour témoigner si vous, à votre échelle, vous participez également à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour nous joindre, franceinter.fr ou Twitter avec le mot dièse Telson. Vous avez aussi le standard 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Bonsoir à tous. 195 pays avaient signé l'accord de Paris l'année dernière. Pour entrer en vigueur, cet accord devait être ratifié par 55 pays représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ces deux seuils ont été dépassés et aujourd'hui, les accords de Paris sont entrés en vigueur. 9 mois seulement après donc leur adoption, alors que Kyoto avait pris 8 ans, Ségolène Royal s'en est félicité. Pascal Canfin, c'est un succès effectivement?
C'est un succès, ça veut dire que l'esprit de Paris est toujours là. C'est-à-dire que ce qui a conduit au succès politique, qui a permis un accord à Paris, eh bien continue et a conduit à une ratification historiquement rapide que l'on compare au protocole de Kyoto ou à tout autre accord international, quel qu'il soit. Donc ça veut dire que la dynamique est là. La bonne nouvelle, c'est aussi qu'on va pouvoir maintenant parler d'autre chose que la ratification. Parce que quelque part, signer, c'est bien, ratifier, c'est encore mieux, mais agir, c'est évidemment la finalité. Et c'est là où, pour l'instant, le bât blesse encore.
Alors, 92 pays qui ont ratifié pour l'instant, que dire justement des pays en question? On en a déjà parlé, il y a notamment les États-Unis, la Chine qui ont ratifié. Ça, c'est quelque chose de très positif.
Tout à fait. Non seulement les pays en développement, les plus pauvres ont ratifié, les petites îles par exemple qui sont les plus victimes du dérèglement climatique, mais aussi les pays les plus riches, les États-Unis, l'Union européenne et les grands émergents. La Chine et les États-Unis ont ratifié le même jour. Puis il y a eu le Brésil, l'Afrique du Sud récemment, l'Inde qui était très attendu puisque un des scénarios possibles aurait pu être que l'Inde signe à Paris mais ne ratifie jamais l'accord. Ça n'a pas été le cas. Donc ça prouve bien que la dynamique est toujours là et qu'on a dépassé la division du monde en deux qui a été celle des années 90-2000 et qui était le grand défi de l'accord de Paris, c'est de sortir de cette division du monde en deux où on avait les riches qui assumaient toute la responsabilité et les émergents qui étaient en dehors du jeu. Maintenant, tout le monde est dedans. Évidemment, la question qui se pose, et c'est une question politique majeure, c'est quid de la future élection présidentielle américaine qui va avoir lieu juste au moment de la COP22 et de l'ouverture de la COP22.
Sachant que Donald Trump a déjà dit que les accords de Paris, vous ne voulez pas entendre parler.
Sachant qu'on a une candidate qui a dit « j'appliquerai en gros les accords de Paris » et un autre candidat qui a dit « Paris, j'en ai jamais entendu parler ». Et donc, sans porter de commentaires sur ça, évidemment la question, si jamais Donald Trump était élu président des États-Unis, la question c'est quelle sera la réaction des autres ? Et notamment, quelle sera la réaction chinoise ? Et là, il y a 2 scénarios. Soit la Chine dit « écoutez, puisque les États-Unis se retirent, moi, je me retire aussi. » Et le château s'écroule. Parce que l'accord de Paris, c'est une dynamique politique plus qu'un accord juridiquement contraignant. Soit la Chine dit au contraire, et ce sont plutôt les signaux qu'on a, dit, écoutez, les États-Unis font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai pas signé l'accord de Paris pour plaire à Barack Obama. Donc, je continue et j'assume mon leadership parce que c'est mon intérêt. Et à ce moment-là, il y aura une forme d'isolement des États-Unis et on verra bien quel scénario l'emporte. Évidemment, je préférerais que ce soit le second que le premier.
Ça reste donc assez fragile. Pierre Radan, Pascal Canfin le disait, ratifier c'est bien, appliquer c'est mieux.
Oui, tout à fait.
Donc, tout commence maintenant, en fait.
Tout commence maintenant, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, excite les diplomates. Ils ont fait le boulot. Je dirais, au niveau mondial, l'affaire a été réglée. Et comme le dit Pascal, l'accord de Paris, contrairement à ce qui a été dit, n'est pas juridiquement contraignant. Il est politiquement contraignant. Mais il est fragile. C'est-à-dire que si, comme ça a été dit, un certain nombre de pays, à commencer par les États-Unis, qui commencent à se débiner, ben on va se retrouver dans la situation dans laquelle on a été pendant 15 ans, après le refus de George Bush, où il a fallu 15 ans pour remonter la pente et avoir un accord universel. Donc on a quelque chose qui est fragile, et c'est pour ça qu'il fallait faire très vite, je dirais, la ratification. Bon, maintenant, la balle n'est plus dans le champ des diplomates. Enfin, il y aura toujours du travail de mise en œuvre à préciser, y compris avec des éléments de droit et de décision collective. Mais maintenant, la balle change totalement de camp. Maintenant, c'est les acteurs de la mise en œuvre. C'est ceux qui sont sur le terrain. C'est les entreprises, bien sûr, c'est les États, c'est les collectivités locales, c'est les ONG, c'est le secteur bancaire, c'est tout ce monde-là qui doit se mettre en mouvement. Et donc, on a là quelque chose qui est inédit dans l'histoire et qu'il faut prendre très au sérieux. C'est-à-dire, c'est la première fois dans l'histoire que sur un sujet, les pays non seulement signent un papier, mais ils ont exprimé ce qu'ils allaient faire dans les 15 ans qui viennent à travers une explication de leur stratégie nationale. Et puis maintenant, il faut passer à l'acte de la mise en œuvre de cette stratégie nationale. Donc il y aura de la planification à faire, des programmes, des projets à monter, et donc tout ça d'ici 2020, et mettre tout ça en route. Et maintenant, c'est des acteurs de terrain qui sont les gens importants dans l'affaire.
Voilà, du boulot, mais quand même une étape, Jean-Louis Etienne, qui est resté avec nous, une étape symbolique,
ah oui,
plus
symbolique,
qu'importante.
Très forte. L'étape symbolique négative, c'était Copenhague. Et donc, Copenhague, tout le monde est tombé en se disant « Les politiques ne sont pas foutus de se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ?» Et là, les politiques se sont mis d'accord, ça a été ratifié, donc comme dit Pierre, c'est à nous aujourd'hui, et chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence personnelle, à commencer par sa vie personnelle. Qui c'est qui est capable aujourd'hui de changer ses habitudes personnelles? C'est là qu'il faut commencer à s'interroger soi-même. Des responsabilités familiales, des personnalités professionnelles, et politique. Donc chacun doit être efficace sur sa zone d'influence.
Alors on va aller au standard dans un instant, mais encore un mot, Pascal Canfin, sur justement ce que vont devenir ces accords, les points d'étape indispensables. C'est en partie ce qui va se passer là avec la COP22 à Marrakech. Ça va être de mettre le point sur ce qui doit être réalisé. Comment
alors,
ça va se passer?
Il y a plusieurs enjeux à Marrakech. Le premier, c'est effectivement de faire les réglages de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est un cap, fixe des principes. Et maintenant, il faut regarder certaines modalités qui doivent notamment être fixées à Marrakech. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Deuxième élément de Marrakech, c'est que c'est au Maroc, et le Maroc, c'est sur le continent africain, et que c'est donc la COP africaine. Et c'est le moment ou jamais pour les leaders africains de poser quelques sujets clés pour eux et pour le reste du monde, mais notamment pour eux, sur la table. Premier sujet majeur, l'adaptation au dérèglement climatique. La plupart des discussions portent sur ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire comment on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Développer les renouvelables, par exemple, c'est évidemment fondamental. Mais il se trouve que nous sommes déjà à 1 degré de réchauffement climatique, que nous allons essayer, c'est tout le sens de l'accord de Paris, de ne pas dépasser les 2, mais que si on applique uniquement les mesures qui sont prévues aujourd'hui, et si encore faut-il les appliquer, on est à 3 degrés de réchauffement. Et ce que nous disent les scientifiques, c'est que comme à chaque fois qu'ils font une étude, ils découvrent un cadavre caché dans le placard et que ça empire, peut-être que le scénario du 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés, ce n'est pas un scénario de totale fiction. Donc dans tous les cas, on va devoir s'adapter au dérèglement climatique, même si on agit dans le bon sens. Et le continent qui est à la fois le moins responsable et le plus victime, c'est le continent africain. Or, l'adaptation, c'est ce qui est le moins financé. Quand on fait une digue sur une route littorale à Dakar pour empêcher la montée des eaux et de faire la submersion de la route, il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de recette. Donc, il faut que quelqu'un paye. Et là, il y a deux options. Soit c'est le contribuable sénégalais, qui n'est absolument pas responsable, mais qui, lui, n'a pas en plus peu d'argent, mais c'est lui qui paye. Ou alors, c'est le contribuable international. C'est la solidarité climatique internationale et c'est le cœur des promesses financières qui ont été faites. Or, si les pays du Nord clairement sont progressivement au rendez-vous des promesses qu'ils ont faites sur les fameux 100 milliards promis, objectivement, le parent pauvre aujourd'hui, c'est l'adaptation. Et l'Afrique a besoin de cet argent public pour l'adaptation. Et si les leaders africains ne gagnent pas cette bataille-là à la COP22, peut-être qu'ils ne gagneront jamais.
Voilà, alors ça, on verra ça, ce sera la semaine prochaine. On va partir au standard de France Inter, retrouver Thierry qui nous appelle du Morbihan. Il a une question à nous poser. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir. Voilà, j'ai lu récemment qu'il y avait l'Observatoire de la Société de la Consommation qui a avait réalisé une étude à l'échelle de 4 pays. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que c'est la décroissance qui arrive en tête dans les projets de société. Et je trouve que ça parle de cette question climatique, parce que si la décroissance est le trajet vers une société écologiquement soutenable et socialement décente, qu'est-ce qu'on attend pour continuer à faire baisser l'extraction, la production, la consommation et les déchets? C'est-à-dire comment on remet le sens des limites dans les politiques publiques et au niveau des individus? Comment on fait passer la responsabilité avant la liberté de chacun pour soi? Parce que le consommer toujours plus, c'est ce qui nous mène dans le mur avec le dérèglement climatique. Et en fait, c'est comment on préserve la vie sur Terre et puis une vie décente pour nos enfants.
Comment on fait?
En passant par la décroissance, parce que je vois pas comment on peut faire décroître les gaz à effet de serre si on fait pas...
C'est une très bonne question, Thierry.
Et donc, il y a des gens qui réfléchissent à ça, c'est les décroissants. Donc, j'invite les auditeurs à aller sur le site Décroissance MOC ou les infos, les-oc.info.
C'est noté. C'est noté. Merci beaucoup, Thierry, pour cette question. Pierre Radan va vous répondre.
Oui, alors, l'affaire est compliquée. Décroissance de quoi? Décroissance de consommation d'énergie en étant plus efficace, ou de matières premières. Décroissance de la pollution. Est-ce que ça veut dire que le projet de la société, c'est la décroissance? Ben non. Moi, je suis pour la croissance de la qualité de santé. Je suis pour la croissance de l'éducation. Je suis pour la croissance de la culture. Et donc, on est dans une réorientation de société dans laquelle le mot croissance n'a plus de sens. Parce que croissance de quoi? Et puis si on prend le mot décroissance comme étant le mot qui englobe l'ensemble de l'activité de la société, on se plante. Donc on est dans une nouvelle civilisation qui va être une civilisation plus légère dans son rapport à la matière, mais qui va être plus lourde dans son rapport à la culture, dans la relation interpersonnelle, et donc il va de ce côté-là être en croissance. Et notamment, tout ce qui se passe aujourd'hui avec les nouveaux moyens de communication, c'est d'une croissance. Un enfant, avec son téléphone portable et Internet, a accès, s'il le veut, dans sa vie, à plus de personnes que toutes les générations cumulées qui l'ont précédé. Et donc on est dans une expansion, on n'est pas seulement dans une régression.
Donc arrêtons d'opposer croissance. Voilà.
Donc attention. Là, les deux mots sont piégés, donc il faut maintenant rentrer dans le contenu du futur et de cette transition. Et puis deuxièmement, attention tout de même, parce que le mot décroissance, on peut l'employer en France, et encore une fois, il a une légitimité, mais aller en Afrique... Écoutez, ils n'en sont pas là. Hein. Eux, ils sont en dessous de conditions décentes de vie. Et donc, il faut que d'autres peuples continuent de progresser. Donc, on a un problème de justice aussi à régler dans cette affaire.
Pascal Canfin, vous vouliez ajouter un mot?
Non, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Pierre Radan. Il y a quand même un mot qui est très important dans la question de l'auditeur, c'est la question de la limite.
Bien sûr.
Nous avons sorti au WWF la semaine dernière un rapport qui s'appelle le rapport Planète Vivante, qui montre, sur la base d'analyses scientifiques qui sont faites par la Société zoologique de Londres,
que la disparition des vertébrés.
Tout à fait. Que plus de la moitié, 58% exactement, plus de la moitié des animaux vertébrés sur notre planète ont disparu sur les 40 dernières années. Sur la moitié d'une vie humaine, nous avons détruit la vie de la moitié des animaux vertébrés sur la planète. Qui sommes-nous pour détruire le reste du vivant sur la planète? Et donc ça pose quand même la question de la limite. Ensuite, quand on la décline en termes d'indicateurs, on ne va pas remplacer l'idéologie de la croissance par l'idéologie de la décroissance, mais la question de la limite, qui est une question morale, une question éthique, et une question que chacun se pose à titre personnel et ensuite à titre collectif, je crois que c'est une question pour notre temps, parce que contrairement à ce qu'on pense depuis la Renaissance, en quelque sorte, donc depuis plusieurs siècles, où nous croyons avec Y et I, que nous étions dans un monde infini, illimité, où nous pouvions croître de manière illimitée, ben non. Finalement, l'écologie, ça ramène à une forme de réalisme, de pragmatisme, qui est le retour à un monde fini, aux ressources limitées, et il faut continuer à réinventer le progrès, à vivre mieux dans ce monde limité et fini.
Jean-Louis Etienne.
Oui, pour rebondir par rapport à ce que dit Pascal Canfin, en fait, on agit comme des animaux. On a une animalité. L'animalité, c'est la reproduction, confortation de l'espèce, extension du territoire. Si on regarde ça, l'homme fait ça depuis très longtemps. Et effectivement, on a quand même l'intelligence, si vous voulez, de notre relation par rapport à ça. Donc, on a une conscience forte et on a l'intelligence des solutions. Il faudrait avoir la sagesse de les mettre en œuvre et ne plus se comporter avec une animalité qui devient de plus en plus prégnante. C'est le nombre, effectivement, le nombre de citoyens du monde qui fait que l'animalité ressort le plus fort.
Alors, on a une question de Daniel par mail qui nous demande comment faire pour que les citoyens s'approprient cet enjeu et dans leurs actes d'électeurs. Alors ça, c'est une question, et dans la formulation de propositions concrètes. Bonne question de Daniel qui rejoint d'ailleurs un petit peu Vincent qui nous appelle, lui, des Deux-Sèvres. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir.
Vous avez la parole, c'est à vous.
Oui, merci. Et d'abord, merci pour vos émissions et bonsoir à vos invités. Alors, en fait, je suis animateur dans une association. On fait des animations dans les écoles et aussi auprès de particuliers, spécifiquement sur les questions d'énergie et de changement climatique. Et en fait, on s'aperçoit depuis quelques années qu'il n'y a pas forcément d'engouement. Alors forcément, au moment de la COP21, ça fait un peu le buzz, ça a un petit peu remobilisé, mais depuis, c'est largement retombé. Et du coup, on s'inquiète. Ce qui a aussi bien marché, c'est quand l'énergie coûtait très cher. Mais à partir du moment où l'énergie coûte plus tellement cher, on sent que les gens sont pas très mobilisés. On a du mal à mobiliser les gens autour de ces questions-là. Et donc, je voulais demander à vos invités comment les gens peuvent s'approprier ces questions-là à partir du moment où l'énergie, comme actuellement, coûte vraiment pas cher.
Alors, une bonne question pour Pierre Radan, ça. Merci, oui. Vincent, d'avoir appelé.
Alors, vous voyez bien qu'on est dans une situation politique très étonnante. Le problème a été très bien abordé au sommet de la pyramide.
Voilà. Hein? Mais après, les commençons par balayer devant notre porte.
Les politiques ont fait leur boulot. Bon, ouais. Maintenant, on a l'étage d'en dessous de la pyramide. Il faut que l'ensemble des acteurs, les entreprises, les banques, les territoires se mettent au boulot. Et puis, après, il y a le problème du bas de la pyramide. Et le bas de la pyramide, il se dit, j'étais dans une société qui me demandait de me comporter d'une certaine façon. On me demande de tout changer, mais moi, je ne sais pas tout changer. Et donc, vous voyez qu'on a là une question qui est une question tout à fait majeure, qui peut s'exprimer dans des termes extrêmement simples. Comment un père et une mère qui ont un enfant de 10 ans, qui vivra jusqu'à la fin de ce siècle? Bon, et comme ça a été dit tout à l'heure par Jean-Louis, il n'y a pas d'autres planètes habitables dans le coin. Bon, et donc on va être obligé de voir un récit de qu'est-ce que c'est que réussir sa vie au XXIe siècle. Et là-dessus, je travaille très activement sur cette affaire-là, et je le fais actuellement dans 12 pays. Comment on raconte une vie réussie au XXIe siècle dans un monde qui réussit la lutte contre le changement climatique. Vous voyez qu'on a là un point qui est un point important, qui est plus de la littérature que du plaidoyer, d'une certaine façon. Comment on exprime un récit de vie qui va faire cette transition?
Moi, j'ai quand même une question sur la responsabilité du politique aussi dans tout ça, parce que vous nous parlez de la pyramide. C'est vrai que on peut être satisfait de cet accord conclu à Paris et qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais est-ce que déjà ici, en France, on donne l'exemple? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que on a pris les mesures nécessaires pour mettre nos paroles en accord avec nos actes, nos actes en accord avec nos paroles plutôt?
Alors, d'abord, je pense qu'il faut opposer aucune échelle. Hein. C'est pas le local contre le mondial ou l'européen contre le national. Tout le monde doit agir là où il peut agir. Donc sortons des faux débats en disant il n'y a que de solutions que locales, ou au contraire il faut d'abord un accord international, sinon on n'y arrivera pas. Il faut tout simplement, puisqu'on est face à un enjeu historique de civilisation. Deuxièmement, il faut demander aux gens ce qu'ils peuvent faire, mais ne pas leur demander ce qu'ils peuvent pas faire. Et c'est là où le politique a une part de responsabilité majeure. Personne ne peut fermer les centrales à charbon d'EDF à la place d'EDF et à la place du politique. Or, là, il y a 15 jours, alors que le président de la République s'était engagé à plusieurs reprises à dire « je vais mettre en place une taxe carbone sur la production de charbon en France », eh bien finalement, à la fin, ils ont calé. Pourquoi ils ont calé? C'est pas, là, il y avait l'éco-tax à l'époque, etc. Pourquoi le gouvernement actuel, comme un certain nombre de précédents, cale sur ce sujet? C'est parce qu'ils n'ont pas mis en place les dispositifs qui permettent de gérer la transition sur le plan social. Toute transition économique fait, et Pierre Radan parlait de sélectivité, fait que certaines activités diminuent, voire s'arrêtent, et que d'autres activités prennent la place. Avant d'avoir la voiture individuelle, il y avait des diligences. Avant d'avoir des chemins de fer, il y avait des diligences. Ben, il n'y a plus de diligences, il n'y a plus de... Tous les métiers qui étaient associés à ça ont disparu. Ils ont été remplacés par autre chose. Ben, on ne va pas arrêter le temps à un moment donné. Au contraire, il faut que le politique apporte les nouvelles sécurités qui fassent qu'on puisse faire cette transition en 5 ans, en 10 ans, mais qu'on la fasse pour de vrai. Donc nous, au WWF, ce qu'on propose, c'est un contrat de transition écologique qui fait que les métiers qui sont les plus impactés négativement par ces contrats, par cette nécessité de la transition, eh bien, ne fasse que ces métiers, enfin la responsabilité, les conséquences ne soient pas supportées par les salariés, qui ne sont pas responsables du fait qu'ils travaillent dans une centrale à charbon ou dans une usine polluante, mais en revanche qu'on assure la transition vers, y compris la leur, en termes de compétences, en termes de formation, de bassin d'emploi, etc., vers des nouveaux métiers qui, eux, sont en pleine explosion. Par exemple, en Allemagne, qui est un des leaders de la transition énergétique, il y a aujourd'hui beaucoup plus d'emplois dans les renouvelables que dans toutes les autres sources d'énergie réunies. Donc, ils sont en train de créer ces emplois, ils l'ont fait, donc c'est possible. Et prenons la Suède. La Suède a un prix du carbone à plus de 100 euros la tonne de CO2, 5 fois le prix français. La Suède va très bien, un taux de chômage beaucoup plus faible que le nôtre, est insérée dans la mondialisation, etc. Donc, l'idée selon laquelle aller vers la transition, ce serait négatif sur le plan économique, c'est totalement faux. Toutes les études montrent le contraire. Simplement, il faut mettre en place les dispositifs sociaux qui permettent de gérer politiquement et socialement cette transition. Et c'est un des grands regrets de ce quinquennat, c'est qu'aucun de ces dispositifs n'a vu le jour sur 5 ans. Et résultat, à la fin du quinquennat, sur la fermeture de 5 centrales à charbon sur toute la France, alors que c'est épsilonesque, rapporté à la totalité de l'énergie qu'on produit, c'est quelques centaines d'emplois. Mais il faut le traiter, évidemment. C'est quelques centaines d'emplois, et bien on cale. Donc ça, c'est un grand regret que j'ai.
Voilà, et on part au standard, et c'est Eric qui nous appelle. Je ne sais pas de quel endroit, mais il est en ligne, et c'est l'essentiel. Bonsoir Eric.
Bonsoir, et bien écoutez, je suis entre Bordeaux et Nantes. Donc, je suis industriel dans le milieu du solaire. On est l'un des derniers fabricants français de capteurs solaires thermiques. Donc, capteurs solaires pour faire de l'eau chaude, hein, non pas à pas confondre avec la filière photovoltaïque. Et en fait, je dirais que la réglementation française aujourd'hui, eh bien, ne privilégie pas cette filière, donc la fabrication d'eau chaude à partir de capteurs solaires, au détriment de la filière basée sur ce qu'on appelle le thermodynamique. Donc c'est en fait une petite pompe à chaleur qui permet de fabriquer de l'eau chaude, mais qui est beaucoup moins efficiente que la technologie du solaire thermique.
Merci.
Et aujourd'hui, on n'est absolument pas entendu au niveau gouvernemental à ce niveau-là.
Pierre Rallane, oui, vous répond, Eric.
Oui, on a en France une énorme difficulté, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir d'initiative de créer du droit de la part des collectivités locales. Prenons le cas de Barcelone. Barcelone, il y a quelques années, a dit toute construction neuve doit avoir du solaire thermique pour faire de l'eau chaude. Tout le monde a rigolé, mais la municipalité de Barcelone l'a fait. Et puis quelques années plus tard, le gouvernement espagnol, finalement ça fonctionne ce truc, on va le généraliser. Donc en fait, il faut qu'il y ait un pouvoir d'innovation qui permette d'avancer sur un certain nombre de sujets, cet exemple-là est tout à fait clair, et puis qu'ensuite derrière on le généralise. Il faut de la dynamique dans toute cette affaire.
Jean-Louis Etienne.
Le solaire thermique, c'est un gaspillage énorme. Regardez le tuyau d'arrosage du jardin à la fin de la journée. L'eau qui est dedans, elle est extrêmement chaude. On ne peut pas arroser ses lades avec ça. C'est tout simple. C'est le rayonnement solaire qui est capté par des corps noirs. Vous êtes au pôle Nord, vous êtes habillé en noir. Il fait moins 25 dehors. Vous êtes habillé en noir, il y a un rayonnement solaire. Vous touchez votre vêtement, il est chaud. C'est le rayonnement solaire que l'on capte. Donc il est partout ce rayonnement solaire. Il suffit de mettre des tuyaux noirs ordinaires déjà pour avoir de l'eau chaude. C'est extrêmement simple et c'est un... je regrette beaucoup que ça ne se développe pas. Autre chose aussi, pour rebondir sur ce que disait Pascal Canfin, il y a une acceptabilité du citoyen qui n'est pas en place en France. Dès qu'on veut mettre 4 éoliennes quelque part, il y a une révolution. Il y a toujours un type qui a une résidence secondaire dans le coin, qui a fait des études à Paris, qui ne veut pas avoir devant sa vitrine une éolienne parce qu'il a je ne sais pas quoi, et donc ça devient quelqu'un qui a une instruction, on le met président de l'association et ça devient un chieur. Et donc c'est contre-productif, je veux dire, c'est quelque chose qui a une... L'acceptabilité, Pascal l'évoquait, vous allez en Angleterre, il y a une acceptabilité, en Allemagne, moi j'ai traversé l'Allemagne en ballon, c'est surprenant le nombre des éoliennes qu'il y a. Et chez nous, on rechigne parce qu'effectivement, il n'y a pas d'acceptabilité. On veut tout, mais ailleurs.
Voilà, surtout pas chez soi. C'est comme pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Non, non, ça, non, si on ne va pas en parler, celui-là. Jacques Danger nous appelle. Bonsoir, Jacques.
Oui, bonsoir. Je vous téléphone pas pour une question, mais pour un point de vue. C'est très intéressant, votre émission. La COP21 a une certaine utilité, je ne vais pas dire le contraire, mais je crois que le problème de fond n'est pas du tout là. Le problème de fond, en 1930, la population planétaire, 1,3 milliard, quelque chose près. Aujourd'hui, nous sommes 7,7 milliards. Dans 20 ans ou 30 ans ou 35 ans, il y aura 10 milliards d'habitants sur la planète. Et il y a un certain nombre de spécialistes qui étudient l'évolution de la population qui estiment qu'à partir de 2100, ça va chuter de manière drastique. Alors évidemment, il faut pas rien faire par rapport au réchauffement climatique, mais il faut pas oublier non plus que ça peut être aussi source d'un cycle naturel de la planète. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est une des solutions, mais c'est loin d'être la seule. Comment on va faire si on ne pose pas les vrais problèmes ?
Alors, on va poser la question à Pierre Radan, Jacques. Merci d'avoir appelé.
Oui, on sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser la démographie. La première chose, c'est qu'il faut un accès de l'éducation. Et les zones du monde où il y a encore beaucoup de naissances, c'est qu'on a un taux d'alphabétisation des filles qui est très faible. Et donc, dès qu'à partir du moment où on fait cet effort d'éducation, qu'on fait cet effort d'information, la natalité baisse. Et je dirais, les rapports à l'intérieur de la famille et à l'intérieur des couples changent. Bon, ensuite, la deuxième explication, il faut avoir l'accès à un minimum de développement, et notamment l'accès à l'électricité. Parce que l'accès à l'électricité, c'est éviter les corvées d'eau, éviter, toute une série de tâches qui pèsent essentiellement sur les femmes. C'est l'accès à l'information, et donc la machine se met en route. Par exemple, actuellement, les pays du Maghreb, qui avaient des taux de natalité très forts, maintenant, aujourd'hui, ils sont sur 2,2 enfants par femme en moyenne. Alors que le Niger est à 7 enfants par femme. Parce que, vous voyez, voilà.
Et ça, c'est pas l'ancien ministre chargé du développement qui va vous contredire. Mais Pascal Canfin, j'aimerais revenir un petit peu sur le bilan du quinquennat, quand même, du quinquennat qui s'achève. Si vous deviez quand même m'édicter une mesure positive qui a pu être prise en matière d'environnement, ce serait quoi ?
Ah ben, il y en a. La loi transition, hein, dans les principes qu'elle fixe et dans les dispositifs qu'elle met en place, par exemple pour développer les énergies renouvelables, va très clairement dans le bon sens. Le fait de dire on interdit tout permis d'exploitation d'hydrocarbures, pétrole et gaz en Méditerranée, qui est une position réaffirmée par Ségolène Royal à plusieurs reprises, qui fait qu'elle a bloqué les permis, va évidemment dans le bon sens. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Hein. Mais moi, ce que j'ai constaté, et ce que je pense l'ensemble des ONG partagent, c'est que ça reste, je dirais, une variable d'ajustement. C'est-à-dire que en fonction du moment, en fonction de la situation politique, en fonction de la pression médiatique, la pression extérieure, des lobbies, etc., bah finalement, la mesure passe ou finit par pas passer, en fonction d'un petit coup d'épaule au dernier moment, etc. Il n'y a pas cette volonté politique affichée. Cette vision qui est de dire, dans le monde de demain, si on veut être compétitif au regard des autres, des Indiens, des Chinois, des Brésiliens, des Américains, quelle est notre valeur ajoutée ? Quelle est notre plus-value ? Est-ce qu'on sera les moins chers ? J'espère que non. J'espère que nos élites ne disent pas la plus-value de la France dans 10 ans, c'est d'être moins cher que les Chinois. Donc si c'est pas ça, et si on dit non, on a un modèle social, on a une protection sociale, on a un système de valeurs qui fait qu'on a un coût du travail et qu'on est plus cher, c'est-à-dire que notre compétitivité, notre valeur ajoutée, c'est sur quoi ? Ben, c'est évidemment sur l'un des grands défis du 21e siècle pour lesquels on a des technologies, on a un historique, on a les compétences, on est parmi les meilleurs ingénieurs du monde, c'est l'économie neutre en carbone. L'économie neutre en carbone, c'est un défi extraordinaire sur le plan de la mobilité, de l'urbanisme, sur le plan industriel. Saisissons-le comme une opportunité fabuleuse et non pas comme un boulet qu'on doit tirer. Parce que aujourd'hui, et c'est quelque part quand même triste, dans les années 90, l'Europe était le continent qui avait le plus de brevets verts. Puis ça a été progressivement rattrapé dans les années 2000 et maintenant c'est dépassé par les Chinois. Les leaders du véhicule électrique, c'est la Chine. Le leader des panneaux solaires, c'est la Chine. Le leader des bus électriques, c'est la Chine. C'est quand même incroyable. On était incroyablement bien placé pour le faire, sauf que on n'a pas cette vision stratégique qui consiste à dire c'est ça notre plus-value, notre apport à la mondialisation. Le deuxième élément, c'est que on n'a pas encore connecté, parce que finalement, qu'est-ce qui fait une élection, au fond? C'est deux grands sujets. C'est un, les sujets économiques, l'emploi, la croissance, etc. Et deuxième sujet, c'est les sujets de stabilité, les sujets migratoires, les sujets identitaires, etc. Et aujourd'hui, moi, je fais l'équation entre ce que j'appelle les trois S, c'est-à-dire la soutenabilité, la stabilité et la sécurité. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus insoutenable sur le plan environnemental. Ça génère de l'instabilité. L'instabilité parce qu'il y a des migrants climatiques, parce que ça génère de la conflictualité dans beaucoup de zones en Afrique notamment, qui font que les communautés commencent à se mettre en tension dans l'accès aux ressources, l'accès à l'eau, etc. Et résultat, ça donne de l'insécurité. Et l'insécurité, ça donne des conflits, des guerres, des migrations, etc. Si on veut se projeter dans les 5, 10, 15 prochaines années et avoir une responsabilité sur ce sujet au niveau de la présidence de la République, il faut connecter la soutenabilité, la stabilité et la sécurité. Et si on ne le fait pas, on passe à côté d'un des grands enjeux du XXIe siècle.
Alors on repart au standard et on va prendre successivement Dietmar et Benoît qui nous appellent parce que le temps passe et il faut qu'on accélère un petit peu. Dietmar, peut-être pour commencer, bonsoir.
Bonsoir, oui. Je vous appelle donc du pays de Bray, en Normandie, et ma question c'était qu'est-ce que les invités pensent de l'abandon de l'écotaxe, alors que tous les portiques sont encore là, et que les autres pays d'Europe, eux, je dirais, n'ont pas abandonné cette écotaxe, et qu'il n'y a pas eu de levée de bouclier, alors que chez nous, les bonnets rouges, de façon paradoxale, se sont élevés contre, alors qu'on voit que ça a favorisé plutôt les importations de porcs, etc., etc.
Alors, on pose la question à Pierre Adane. On repart tout de suite après au standard pour prendre Benoît. Oui, Pierre Adane, sur l'écotaxe.
Écoutez,
abandon en race campagne.
Tout à fait. Ce qu'on a, dans les dernières questions qui ont été posées, on a un énorme problème de culture collective. On ne travaille pas sur un récit du futur. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les composantes de la société française partent chacune dans des directions totalement opposées, et que même quand on a l'unanimité au Parlement de toutes les forces politiques, derrière, ça coince. Bon, alors, les Bretons, le Far West, disent l'Europe glisse vers l'Est. Donc les distances vont augmenter, donc on va être marginalisé. Les Alsaciens disent bah oui, mais ça fait passer des camions allemands par chez nous, et donc on est pour. Donc à un moment, il faut négocier avec les gens, il faut négocier des transitions, il faut négocier des processus.
On part au standard, comme promis. Benoît nous appelle. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, c'était pour donner un exemple. Par exemple, chez nous, moi je suis en province, je suis dans le Gers, et en fait, on a réussi avec les années, on a une maison qui fait 130 mètres carrés, on a mis 12 mètres carrés de capteurs solaires, on a une chaudière à granulés depuis quelques années, mais sinon avant on avait un insert à bois. Tout ça, c'est relié sur un ballon solaire, et si vous voulez, ça nous fait déjà un bon apport au niveau du chauffage. Après ensuite, on a mis des LED un peu partout, on a une machine à laver, on a mis une double entrée, c'est-à-dire que vous rentrez l'eau chaude du solaire directement dedans. Et je pense que le citoyen, c'est lui qui peut arriver quand même à faire ces choses-là. On le voit bien aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec par exemple une société comme Enercoop qui vend de l'électricité d'origine renouvelable. Et on voit bien qu'après, il y a quand même un besoin des citoyens de vouloir s'investir dans la production d'électricité, par exemple. L'électricité n'étant qu'une vingtaine de pourcents, en gros, de nos consommations d'énergie.
Merci beaucoup, Benoît. Je suis obligé de vous arrêter parce que le temps passe, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous, et notamment Martin, qui nous a contacté par mail et qui dit « Je fais ce que je peux à mon niveau pour réduire mon impact, mais ce sont des actions isolées alors qu'il y a de grands travaux à faire qui dépassent les individus comme la rénovation thermique des bâtiments publics, Pierre Adane. Chacun doit y mettre du sien, mais il faut quand même qu'on soit accompagné, y compris par les banques. Hein. Il y en a qui nous disent les banques, elles font pas le taf non plus. »
Vous avez un processus démocratique normal. Les gens disent « Je fais, si tu fais, si nous faisons tous ». Donc, en fait, le rôle du politique, c'est d'orchestrer la mise en mouvement de l'ensemble de la société. Et là, par rapport à ce que vous disiez sur le quinquennat, on a quand même un problème. C'est-à-dire que les forces politiques négocient pas entre elles des processus d'avancée progressif. Et donc, à partir de ce moment-là, on a la hiérarchie classique qui s'installe. D'abord l'économique, maintenant de plus en plus le social, avec toutes les difficultés que l'on a. Et à ce moment-là, l'environnement, on renvoie ça aux 40 Grecs. Donc, on donne une priorité au court terme et on tue le long terme.
Jean-Louis Etienne, peut-être, et puis on va faire un tour de table après pour terminer.
Moi, je pense que très prochainement, on pourrait satisfaire nos besoins domestiques avec les énergies renouvelables, à condition qu'on ait des citoyens éduqués sur la préciosité de l'énergie. Il y a des multiples accès à l'énergie, et donc si tout le monde s'y met comme la personne... Bon, il est quasiment en religion avec l'énergie, la personne qu'on a entendue, mais il y a du fun, si vous voulez, à essayer de devenir quasi autonome en énergie. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et il y a des ressources technologiques qui sont à portée à l'heure actuelle, à des tarifs intéressants. Donc si on fait cette démarche, je pense qu'on peut arriver...
Et il y a des tas de petits gestes du quotidien. Oui. Vous dites vous-même, on arrête de manger les fraises à Noël. Hein. Ça fait partie de la panoplie.
Et ce qu'il faut comprendre, qui est difficile avec le changement climatique, c'est une machine qui a une inertie énorme. On est en train de refaire le monde, si vous voulez, et on a le sentiment qu'on a le temps. Mais non, on n'a pas le temps. Donc c'est cette inertie énorme qui nous donne cette pression de chronicité alors qu'il y a urgence à agir tous les jours.
Pascal Canfin, le mot de la fin.
Trois mots. représentation, pratique et... j'ai oublié le troisième, que ça vous fera gagner du temps. Et règles du jeu, voilà. Il faut changer ces trois choses-là. Les représentations, c'est quoi? C'est de se dire, l'environnement, c'est pas un sujet secondaire. C'est un enjeu de civilisation, de vivre ensemble du 21e siècle. Si les climatologues ont eu un prix Nobel de la paix, s'ils n'ont pas eu une prix Nobel des petites fleurs, ils ont pris Nobel de la paix parce que c'est la condition de notre vie au Pacifique au 21e siècle. Donc c'est pas un sujet qui peut être mineur et je constate que jusqu'à présent, dans la campagne présidentielle qui a commencé à s'ouvrir, c'est relégué au sous-sol. Je trouve ça dramatique et assez pathétique. Deuxième sujet, les pratiques. Pratiques, chacun peut changer ses pratiques. Si chacun faisait ce qu'il peut déjà faire sans demander l'impossible, nous aurions déjà fait un grand pas en avant. Troisième chose, les règles du jeu. Il faut changer les règles du jeu et ça, c'est un enjeu évidemment politique.
Le mot de la fin pour vous aussi, Pierre Radan.
Écoutez, je suis d'accord avec ce que vient de dire Pascal.
Merci.
Ce siècle est merveilleux. Il faut l'aimer, il faut le comprendre, il faut être en empathie avec les gens. Et il faut faire le récit d'une nouvelle période de l'humanité. Regardez dans le débat public aujourd'hui, tout le monde s'engueule sur la responsabilité du présent, pas personne ne parle du futur. Notre système politique est vraiment malade de ce côté-là. Il faut avancer vers le futur, il faut aider à construire tout ça. C'est passionnant cette affaire-là.
Et profiter de la campagne présidentielle pour parler de tous ces sujets. Merci Jean-Louis Etienne, merci Pascal Canfin, merci Pierre Radan, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Irène Ménem, Marie-Claude Malartic, Octavie Morel, Jérémy Younes. À la réalisation, Éric Lenné, Anne-Cécile Perrin. À la technique ce soir, Mehdi Fatah, Raphaël Rousseau, Julien Dumont au standard, Adrien Vallot, Théo Raison, qu'ils en soient remerciés. Tout de suite la pub.